Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 2, Snetterton, le temps des apprentissages.
Le ciel est immense et souvent gris au-dessus de Snetterton. Situé à 200 km au nord-est de Londres, ce petit aérodrome, devenu autodrome, accueille chaque année des compétitions nationales sur un tracé entièrement plat qui, vu du ciel, présente une forme de rectangle. Nous retrouvons Ayrton Senna à l'hiver 1980-1981. Casque jaune sur la tête, il s'installe aux commandes d'une Formule Ford. Dépourvu d'ailerons, ses monoplaces au look de sauterelle sont équipées de pneumatiques de route et de moteurs Kent. Pour la première fois, le jeune Brésilien, âgé de 20 ans, va prendre le volant d'une voiture de course. Pierre Van Vliet, à la fin de l'année 1980, Ayrton Senna quitte son Brésil natal pour tenter sa chance en Europe.
Oui, alors à la différence du karting, c'est vrai que là, il quitte vraiment son pays pour s'installer en Grande-Bretagne et pour accomplir vraiment une saison complète. Donc ça veut dire rester 6 mois au plus en Angleterre. C'est quand même un contraste saisissant avec avec le Brésil, son Brésil natal, avec la chaleur du Brésil. Et puis aussi, c'est passer du karting à la monoplace, donc c'est un choix malgré tout. À ce moment-là, c'est quand même une forme de plan de carrière, même si on n'appelle pas encore ça comme ça. Il y a d'autres Brésiliens qui ont montré la voie avant lui, hein, Emerson Fittipaldi, le premier, et que Emerson, c'est chez Jim Russell qu'il a atterri à Snetterton, c'était l'école de pilotage là-bas. Mais à l'époque, Emerson, par exemple, n'a pas vraiment fait de karting. Hein, il avait plutôt fait des voitures de tourisme un peu improbables. Alors qu'Ayrton, il passe du karting à la monoplace à un moment où le karting est déjà devenu un sport professionnel ou un sport assez sophistiqué. Hein. Mais ce qu'on constate, Ayrton n'ayant jamais été champion du monde en kart, mais on constate encore aujourd'hui que jamais un champion du monde de karting n'est devenu champion du monde de F1. Donc ça, c'est quand même assez significatif, je crois, du fait que c'est en fait pas le même sport. C'est une discipline qui prépare bien au sport automobile, mais c'est quand même pas tout à fait non seulement la même catégorie, mais la même philosophie, la même dimension. Et là, il arrive à Snet, comment on dit, à Snetterton, enfin près de Snetterton, dans la région de Norwich, un peu au milieu de nulle part, quoi. Mais voilà, c'est ce choc culturel et aussi le fait que ça l'éloigne des siens. Hein, donc de sa famille. Or, ils sont quand même très fusionnels dans cette famille. Il se fait qu'Ayrton s'est marié très jeune avec Liliane et que, voilà, c'est un choix de vie. Donc, ils partent en 1980 pour l'Angleterre et ils partent à deux. Donc, ils viennent s'installer, un petit jeune couple du Brésil. Mais je pense qu'ils sont quand même, tombés de l'armoire parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel contraste et une telle rudesse quelque part. Je parle pas que de la météo, hein, il y a aussi les Anglais, le mode de vie, la manière d'être. Voilà, donc ça a demandé une période d'adaptation. En revanche, dans l'auto, tout de suite, il s'est senti comme un poisson dans l'eau. Et chez Van Diemen, on a tout de suite vu que c'était the next big thing, comme on dit.
Justement, à l'époque, la carrière d'un pilote automobile se décompose en championnat, qui sont un petit peu des échelons à gravir. Le premier, la Formule Ford. Est-il évident, dès cette époque, que son talent est spécial?
Un peu comme en karting. On voit tout de suite que le gars, il a le petit quelque chose de plus. Il joue avec l'auto, quoi. Il contrôle, il fait ce qu'il veut. Mais il a aussi déjà cette capacité de travail, cette analyse, cette envie d'exceller. Et chez Van Diemen, ils en ont vu défiler, hein, des jeunes espoirs du Brésil et d'ailleurs, parce que c'est quand même la référence, Van Diemen, à l'époque, en Formule Ford. La Formule Ford, c'est la formule d'entrée. Hein, à l'époque, il n'y en a pas d'autres, ou quasiment pas. La Formule Renault n'a pas du tout la même dimension. Et voilà. Et puis, la Grande-Bretagne aussi est le pays de la course, comme on disait. Et c'est vraiment là qu'il fait son éducation de sport automobile, qu'il apprend la langue et qu'il apprend la course et toutes les ficelles de la course, parce que en Angleterre on court tous les week-ends, parfois plusieurs fois par week-end, on fait trois championnats en même temps en Formule Ford C100 à l'époque, et Ayrton voilà, il est tout de suite devant.
Pourtant Ayrton Senna ne participe pas au Formula Ford Festival, qui sert généralement de tremplin aux jeunes pilotes. Pourquoi?
Alors c'est que le Ford Festival en fin d'année à Brands Hatch, c'est la grande messe, hein, de la Formule Ford et de la monoplace. À l'époque, c'est 200 ou 220 concurrents qui se présentent sur un petit circuit, parce que on roule sur le petit circuit de Brands Hatch. Donc il y a des 16e de finale, des quarts de finale, des demi-finales, enfin c'est une histoire de fou. Et c'est vraiment la course de prestige, c'est le Graal de la Formule Ford, hein, c'est Monaco en F1 ou Macao en F3. Et effectivement, Ayrton n'y participe pas parce que il rencontre des problèmes personnels, notamment avec Liliane, sa jeune épouse, qui est quasiment en dépression et qui supporte plus ce climat et cet environnement pénible. Elle était rentrée pendant l'été au Brésil en vacances, elle avait mis du temps à revenir. Enfin bon, entre eux, il y a eu la distance un peu, fait comprendre que la volonté d'Ayrton d'accorder la priorité à sa carrière, à ce talent, hein, qui ne demandait qu'à s'exprimer, ben ça voulait dire peut-être des sacrifices par ailleurs et une vie personnelle peut-être moins riche. Et donc la pauvre Liliane, elle a pas vraiment tenu le choc, mais Ayrton non plus. Du coup, il est rentré, il a essayé d'arranger les bidons, ça n'allait pas, son père, parce que les parents, il faut un peu se mettre dans le contexte familial, divorcé, c'est pas du tout prévu au programme, hein, c'est pas le genre de la maison, hein, on est quand même dans une famille catholique et dans une époque où, voilà, c'était pas dans les mœurs. Donc, l'expérience anglaise, certes, elle est violente pour le jeune couple, mais on essaie quand même de recoller les morceaux, et la famille fait pression pour que Ayrton revienne au Brésil et travaille dans l'entreprise familiale ou fasse une carrière plus classique pour un jeune bourgeois de la bonne société de Sao Paulo. Ce qu'il fait, il accepte le choix familial, parce qu'il a, en réalité, il n'y a pas de choix. La pression familiale est vraiment forte. Et puis, il essaye tant bien que mal de sauver son mariage. Bon, ils vont pas y arriver. L'hiver, je crois qu'il est rongé, vraiment, par cette espèce de remords d'un côté, mais de volonté, d'ambition de l'autre. Et physiquement, il en souffre. Il a une espèce de paralysie faciale parce que nerveusement il est tellement tendu et d'ailleurs il va en garder des séquelles, hein, toute sa vie on constate que son visage est un peu asymétrique parce qu'il a eu ce nervous breakdown, comme on dit aujourd'hui, un burn-out, on pourrait dire, en quelque sorte. Mais finalement il en souffre tellement que sa mère et son père se rendent compte que la course est trop importante pour lui et que il peut pas s'empêcher de penser que la saison peut pas recommencer sans lui, et que donc on est tard, hein, on est en février 82 et il arrive un peu tard. Il téléphone chez Van Diemen et tout, mais il y a plus de volant dans l'équipe d'usine parce que c'est le championnat suivant, c'est la Formule Ford 2000, hein, c'est la catégorie supérieure, c'est-à-dire des monoplaces mais avec des ailerons, avec des slicks, enfin c'est déjà un peu plus évolué que la Formule Ford, c'est 100. Et donc il débarque quand même à Norwich chez Van Diemen, et il y a un client de Ralph Irman, de Van Diemen, qui s'appelle Dennis Rushen, qui a un team de Formule Ford 2000, Russian Green Racing. Et c'est là qu'Ayrton atterrit, avec forcément un petit Madeleine familial, hein, pour repartir la fleur au fusil. Mais entre-temps, voilà, il a quand même acté le divorce avec Liliane. Et donc là, il y a vraiment une rupture qui se fait. Et lui, il se plonge, il est vraiment à ce moment-là en immersion dans son challenge de la course automobile, et il se retourne plus en arrière, il va de l'avant, et je peux vous dire qu'il va de l'avant, mais là, il met tout le monde d'accord, parce que là, il fait une saison éblouissante.
Justement, en 1982, on le retrouve dans ce petit pavillon de briques à Norwich. Il affronte cette fois les meilleurs pilotes européens, les meilleurs jeunes pilotes européens.
Oui, parce que la Formule Ford 2000, au contraire de la Formule Ford C100, il y a un championnat européen, il y a une compétition britannique, mais il y a un championnat en Europe. Et donc, moi, je le vois d'ailleurs à quelques courses. Il y avait y compris un lever de rideau de Grand Prix des Fins, je me souviens, je crois que c'est en Autriche, où Emerson Fittipaldi, qui était encore plus ou moins manager de son équipe, qui était agonisante, prend Ayrton sous sa coupe et va le présenter dans les teams de F1. Parce que, bon, il a déjà une petite réputation, parce qu'il a gagné la Formule Ford et qu'il domine la Formule Ford 2000. Et Emerson se fait vraiment le défenseur d'Ayrton, parce qu'ils sont tous les deux de Sao Paulo, ils sont tous les deux de ce même milieu, les familles se connaissent. Le père Fittipaldi, il faut savoir, le Wilson Senior, c'était un journaliste automobile installé, une référence au Brésil. Et voilà, donc moi je le vois là, je le vois surtout à Zolder, je me souviens d'une course à Zolder, près de chez moi, et où là, le pauvre, hein, il est avec un Ford Transit, un plateau, la Formule Ford derrière, et deux mécanos anglais qui parlent avec un accent à couper au couteau, et le Sénat, il est dans sa bulle, quoi. Donc moi, c'est là que je lui parle pour la première fois, parce qu'à Nivelles, je ne m'étais pas adressé à lui, je l'avais vu, mais et comme je lui parle en portugais, ben tout de suite la glace est brisée, et quand je le revois par intermittence, parce que moi j'allais à l'époque sur les grands prix ou sur des courses, quand il a commencé à faire la F3, j'ai suivi quelques courses, donc là j'allais le voir et on taillait une bavette, mais enfin rien de spécial, de particulier. Je savais quand même que c'était un futur pilote des fins. Donc c'était sur ma carrière journalistique, j'ai commencé par faire championnat d'Europe des fins, Formule 2 avec les mecs de ma génération, de mon âge, et je me suis fait un réseau comme ça. Donc quand j'ai commencé à couvrir les grands prix, mais je connaissais tout le monde. Et Ayrton, c'est un peu le même processus.
Fin 1982, il effectue ses débuts en championnat britannique de Formule 3 avant d'entamer une saison complète en 83. La discipline est alors considérée comme le grand rendez-vous des futurs talents. Comment ils s'adaptent à ces voitures qui sont nettement plus puissantes que les Formule Ford?
Oui, alors le championnat anglais, la référence en F3 en plus, à l'époque, il y a un championnat d'Europe, mais qui est moins compétitif que le championnat anglais. Et Ayrton, en 82, fin de saison, en octobre, à Truxton, il fait un meeting assez prestigieux parce qu'il est filmé en direct sur la BBC. Et il court déjà dans l'équipe de Dick Bennett, West Surrey Racing. Et bon, il gagne. Donc, première course d'F3, il arrive, il monte dans l'auto, boum, boum, pole, record du tout, il gagne, la routine. Donc là, les gens comprennent que c'est pas parce qu'on passe de 160 chevaux à 220 chevaux que ça va changer sa vie. Alors évidemment, il est dans le meilleur team, il est dans le meilleur contexte, mais enfin, il tire aussi l'équipe par le haut et il n'envisage pas autre chose que la victoire, quoi. Donc il a ce côté jusqu'au boutiste, obsessionnel. Alors Dick Bennett, c'est aussi un gars formé à l'école Ron Dennis. Enfin, c'est des racers, hein. C'est un Kiwi, Dick, c'est un Néo-Zélandais. Donc l'habitude aussi d'être déraciné, d'être loin. Enfin, il y a une forme de solidarité sans doute qui s'installe, ou de complicité, disons. Et la saison 83, voilà, Ayrton domine, même si il y a quelques moments où il a cette tendance à surconduire ou à être un peu optimiste, et puis il tombe sur Martin Brundle et l'équipe Eddie Jordan Racing en face, qui était quand même assez qui avait le fighting spirit britannique, et donc il se mélange les roues quelquefois avec Martin, et ça se termine parfois la tête en bas, mais grosso modo, c'est quand même lui qui a le dessus, et à la finale du championnat à Truxton, c'est, je dirais, presque une formalité, parce qu'il lui suffisait de quelques points pour être champion, ce qui fut le cas.
Mais on voit déjà, à ce moment-là, le Ayrton Senna qu'on connaîtra plus tard à la renommée internationale, c'est-à-dire un pilote d'une grande agressivité, un car control exceptionnel. C'est vraiment déjà sensible à cette époque-là.
Oui, alors la différence, c'est qu'il est encore un peu chétif physiquement. C'est pas encore un homme, c'est encore un grand adolescent. Mais c'est vrai que sur le plan du pilotage, voilà, il y a déjà ce côté équilibriste, ce côté en contrôle. Et tout de suite, les gens de la F1 s'en rendent compte. Hein. Certes, il y a eu le tour de paddock avec Emerson Fittipaldi l'année d'avant, mais ils sont tous à l'époque, ils ont un œil, ils ont des scouts, des espions sur les circuits où ils viennent eux-mêmes, hein, aux courses d'F3. Je me souviens du meeting de Truxton, par exemple. Ça se bousculait en paddock F1 et au cul du camion d'Ayrton en particulier. Et donc, c'est comme ça qu'il fait ses premiers tours en F1 à l'été 83, hein, avec Williams, mais il est vraiment demandé partout. Et donc, il y a un test avec McLaren, avec Tolman, avec Brabham également. Mais bon, le contexte de l'époque, le marché des transferts de l'époque fait que, alors soit il va en Formule 2, soit en F1, bon, ben, les top teams ont pas vraiment, ils se rendent compte qu'il y a une pépite là. Mais il y en a aucun qui ose faire le pari. Et vous parlez à Frank Williams encore aujourd'hui, il s'en mord les doigts. En l'occurrence, c'était Jacques Lafitte qui avait un contrat de 2 ans côté de Keke Rosberg, et ça a été à 2 doigts que Jacques se fasse débarquer pour que Senna débute en F1 chez Williams en 83, je dis bien.
84.
Et puis finalement, Jacques avait un contrat en béton, et même si Williams a divisé son salaire par 2, il est resté. Et donc ça, c'est un rendez-vous manqué, non seulement avec Williams, mais avec Honda déjà, puisque Williams allait avoir Honda comme motoriste. Donc Williams s'en mord encore les doigts aujourd'hui. Chez McLaren, le test arrive plus parce qu'il gagne le championnat de F3 et que le sponsor Marlboro, voilà, offrait un test au premier ou aux 3 premiers même. Donc Ayrton roule avec la McLaren à Silverstone, mais chez McLaren il y a Loda, Watson, enfin qui sont un peu installés, donc c'était pas trop. Alors Marlboro était intéressé par Senna, donc ils vont le placer ailleurs, ou en tout cas le prendre sous contrat, mais pas chez McLaren. Chez Lotus, où il y a déjà des contacts aussi, mais il y a Mansell, il y a GPS qui veut un pilote anglais, etc. Donc c'est un peu compliqué. Brabham, donc il fait un test avec Brabham au Ricard, assez brillant. J'étais là, je m'en souviens bien. Mais il y a Nelson Piquet, donc là, forcément, Piquet, voilà, avoir ce petit Paulista dans les pieds, ça ne lui va pas du tout. Piquet, champion du monde, il a le vent dans le dos, donc Ecclestone ne prend pas le risque de se fâcher avec Nelson Piquet. Et donc, c'est un peu par défaut qu'il arrive chez Tolman. Et chez Tolman, où là, il y a de la place, quoi, parce que Derek Warwick est parti chez Renault, parce que Alex Oakridge, le patron de Tolman, voilà, a une bonne connaissance des formules de promotion, parce que Tolman est une équipe jeune et ils viennent de la F2 et de la F3 avant, donc ils ont suivi Senna, et l'opportunité de signer Senna, ben voilà, ils se jettent dessus, ils le prennent, et c'est avec Tolman qui débute en 84.
Ayrton Senna parafe son contrat au sein de l'écurie Tolman. Il effectue ses débuts en Formule 1 au Grand Prix du Brésil 1984. Au volant d'une monoplace passable, il ne peut espérer que des places d'honneur. Mais il ne tarde pas à révéler au monde entier son potentiel. Pierre Van Vliet, 3 juin 1984. Le monde entier découvre ce jeune pilote brésilien nommé Ayrton Senna sous la pluie de Monaco.
Oui,
c'est le jour...
Oui, c'est
la révélation au grand public.
Oui, c'est la date de référence, quoi. C'est la naissance du phénomène Senna. Même s'il était là, évidemment, hein, il était en formation. Mais c'est vrai que le début de saison 84 chez Tolman, alors chez Tolman, hein, je vous ai dit, Warwick est parti chez Renault. Il n'y a pas vraiment son équipier, c'est Johnny Cecotto, qui est un champion de moto, qui a été champion du monde en moto, mais qui a fait une ou deux saisons de Formule 2, et puis voilà, qui avait débuté en F1 l'année précédente, mais sans faire des étincelles. Donc Senna, non seulement il est le jeune coming man, mais il est aussi le premier pilote, il est le leader de cette équipe Tolman. Mais il découvre quand même la F1, et là l'écart entre la F3 et la F1 quand même, c'était avec le turbo. C'était des voitures très, très physiques, lourdes. Le temps de réponse, je ne raconte pas, le moteur Hart Turbo de la Tolman, c'était quand même pas rien. Les pneus Pirelli, parce que Tolman, il y a eu des problèmes de fourniture de pneumatiques, donc on passe d'une Pirelli Michelin, etc. Enfin, peu importe. Toujours est-il que, aussi, le premier Grand Prix d'Ayrton, je me souviens, à Rio, il y a la chaleur, il y a la longueur de la course, et à la fin de la course, il était, mais t'es cuit. Deuxième course, on est en Afrique du Sud, à Kelami, où là, il y a l'altitude en plus, il y avait aussi la chaleur et tout. Ayrton, il tombe dans les pommes à l'arrivée. Alors, il marque un point, je crois, enfin, mais il tombe dans les pommes à l'arrivée. Donc là, physiquement, il se rend compte qu'il n'est pas prêt pour la F1. Et en 3 mois, il y a une transformation physique du bonhomme. Ça, c'est très impressionnant. Et il a son entraîneur personnel au Brésil, et puis en Europe, et il se muscle, et il s'endurcit, et il devient, un costaud, alors qu'il était un gringalet. Mais en l'espace de 3 mois, ou de 6 mois, à tout casser. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, et ça donne une idée de la détermination du fait que le gars, il va rien laisser de côté, et que la souffrance, eh bien, ça fait partie de cette formation, de cette période d'apprentissage de la F1. Et donc, il arrive à Monaco. Alors Monaco, c'est le circuit le moins physique de la saison, sans doute, a fortiori sous la pluie, où là, on retrouve le Senna virtuose qui jongle avec sa voiture, qui a les bons pneus. Alors c'est sûr que le temps de réponse du turbo sur le mouillé à Monaco, c'est pas triste, mais c'est valable pour la plupart des autres voitures, si ce n'est encore quelques moteurs atmosphériques, hein, notamment les Tyrrell avec Stéphane Belhoff, qui, parce qu'on parle de Senna ce jour-là, mais en réalité, le pilote le plus rapide dans ses 15-20 premiers tours du Grand Prix de Monaco, c'est Belhoff qui lui revient du fin fond de la grille et qui remonte avec une voiture beaucoup plus agile, plus légère et un moteur plus souple, plus facile à exploiter sous la pluie à Monaco. Mais bon, on se souvient de Senna qui remonte, qui trouve des trajectoires, qui trouve de l'adhérence là où il n'y en a pas et qui donne une leçon de pilotage.
Il est 13e sur la grille.
Oui.
Il remonte un à un les concurrents, voilà. Il dépasse Lauda, Rosberg.
Et il les dépasse parce qu'à Monaco, on ne dépasse pas, mais si, on dépasse quand même. Et voilà, notamment en freinage de Saint-Devote, mais aussi ailleurs, il arrive à trouver des trajectoires assez incroyables, en tout cas trouver du grip.
Et sous une pluie battante, il remonte sur Alain Prost.
Une pluie qui redouble, hein, donc ça tombe de plus en plus fort. C'est des hallebardes, on ne voit rien, hein, bon. Mais bon, c'est un circuit en ville, on ne va pas trop vite, donc les organisateurs hésitent. À arrêter, à mettre le drapeau rouge ou pas, etc. C'est Jacques Hiss qui est directeur de course. Donc lui, c'est quand même le spécialiste de la pluie, hein, le rainmaster, comme on disait à son époque. Donc, mais bon, quand même très conscient de l'importance de la sécurité à Monaco pour la pérennité du Grand Prix de Monaco. C'est un circuit, hein, pas comme les autres, donc on ne peut pas se permettre de prendre tous les risques. Donc il y a un moment où la pluie redouble. L'intensité est telle que Jackie décide d'arrêter. Et donc, il met le drapeau rouge avec le drapeau à damier au moment où Ayrton passe Alain Prost qui était en tête. Et c'est vraiment sous le drapeau quasiment. Il vient de le doubler dans la ligne droite à la sortie du gazomètre, comme on disait à l'époque. Et Ayrton croit qu'il a gagné. Donc, il monte, il arrive au casino, hein, les commissaires agitent le drapeau et voilà, il lève le bras, il se dit « Waouh !» Il est over the moon, quoi. Il est persuadé qu'il a gagné. Après, il réalise sans doute en revenant dans les stands, son équipe, voilà, non, t'as pas gagné, c'est le classement, le règlement, c'est qu'on arrête le classement au tour précédent. Donc, t'es deuxième, bravo. Comment ça, bravo, deuxième? Il fait la gueule sur le podium, je vous dis pas, hein, je sais pas si vous avez déjà vu les images, bon, on les voit dans le film, là, bon. Alors oui, il réalise quand même qu'il a fait un exploit, une performance, et que quelque part, Monaco, c'est quand même le Grand Prix avec la plus grosse visibilité qui soit. Donc, voilà, il se révèle au monde entier ce jour-là. Mais, on lui a volé la victoire, quoi. C'était sa course, il devait gagner. Et le soir, d'ailleurs, moi, je suis à la remise des prix, au dîner de gala du prince, et une petite explication de texte avec Jackie, avec les gens de la CM, et lui, il fait la tête, quoi. Il sait que le lendemain, je suis à l'aéroport de Nice avec Jackie, justement, pour reprendre l'avion. Jackie et moi, on rentrait en Belgique. Il se fait qu'on tombe sur Ayrton et Alex Oakridge qui rentrait en Angleterre. Et là, un peu par hasard, hein, on se tombe dessus, vraiment, un frontal inattendu. Bon, moi, je connais bien Ayrton et je connais bien Jackie. Donc, je dis, allez, les gars, hein, serrez-vous la main. Il n'y a pas. Et donc, OK, Ayrton le fait, mais un peu quand même à contre-cœur. Et puis, ce n'est que beaucoup plus tard, des années plus tard, à Monaco d'ailleurs aussi, lors d'une remise des prix, peut-être en 91 ou 93, je ne sais plus, où ils sont voisins de table et où Ayrton avec le recul et l'expérience, réalise que Jackie a pris la bonne décision à l'époque, et voilà, il y a du respect entre eux, et tout est bien qui finit bien. Mais l'anecdote est marrante parce que voilà, j'étais aux premières loges.